quoi tu penses?
C'est ça.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on va parler de l'avancée, de l'avancée du programme de rénovation du quartier des Couronneries, avec l'inauguration du parc de Coubertin. Grâce au Toit du Monde, nous rencontrerons l'association Idées, Initiative Développement. Et tout de suite, on démarre avec le domaine de la santé et on accueille Alexandre Quillet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinateur du projet Entrepôt de données de santé au CHU de Poitiers. Alors, il va d'abord falloir expliquer un petit peu à nos auditeurs et auditrices ce que c'est qu'un entrepôt de données de santé.
Oui, bonjour. Donc, tout à fait. Dans un premier temps, l'idée, c'est de vous expliquer un peu ce qu'est l'entrepôt de données de santé. Donc, il faut imaginer, lorsque un patient arrive à l'hôpital, il va réaliser un certain nombre de soins, d'examens complémentaires. Des observations médicales seront réalisées pour décrire l'état de santé et prendre en charge ce patient. Il faut savoir que, en fait, toutes ces données, actuellement, sont déjà collectées pour répondre aux soins primaires. Et donc finalement pouvoir répondre aux besoins de santé auprès de cette population. Dans un second temps, en fait, il faut imaginer que toutes ces données sont déjà collectées dans un certain nombre de logiciels indépendants les uns des autres dans notre système d'information hospitalier. Et l'idée de cet entrepôt de données de santé, c'est de pouvoir finalement collecter dans un même espace sécurisé l'ensemble de données dans l'objectif finalement de faire de la réutilisation de données. Donc on n'est pas dans le cadre du soin primaire pour répondre aux besoins de santé direct primaire du patient, mais dans une approche secondaire de réutilisation de données qui existent déjà et qui a vocation finalement à pouvoir alimenter des projets de recherche, essayer de mieux comprendre les maladies pour par la suite les prévenir et mieux offrir un meilleur soin aux patients.
Et comment est née l'idée de créer cet entrepôt de données de santé?
Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de démarches qui existent à travers la France. Et au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a eu un projet collaboratif entre les trois CHU de la Nouvelle-Aquitaine, Limoges, Bordeaux et Poitiers, pour co-construire un projet collaboratif d'entrepôt de données de santé. L'idée, c'est finalement de se dire, à partir de ces trois centres hospitaliers, on construit chacun indépendamment un entrepôt de données de santé. Et lorsqu'on a un cas d'usage, donc une réutilisation de données nécessaire à un projet de recherche qu'on appelle multicentrique, donc qui va mobiliser les données de différents centres, qu'on puisse centraliser l'ensemble de ces données dans un espace sécurisé régional pour pouvoir faire une étude de plus grande ampleur. Donc ça s'est construit un peu dans une approche vraiment régionalisée, donc Nouvelle-Aquitaine, et dans le cadre d'un appel à projet qui a été émis par BPI France.
Et vous, en tant que coordinateur de ce projet, quel est votre rôle et depuis combien de temps vous travaillez sur ce projet?
Alors, le projet, on l'a débuté en 2013. Donc, en 2013, on a commencé à construire le... En 2023, excusez-moi. En 2023, on a commencé à construire le projet en collaboration avec nos collègues de Limoges et Bordeaux. Ma place, finalement, c'est une place, comme le titre l'indique, de coordination. Donc, finalement, de faire en sorte que l'ensemble des acteurs, parce qu'on reprécisera peut-être, mais l'ensemble des acteurs qui va contribuer à la constitution de cet entrepôt de données de santé et finalement par la suite la réutilisation dans le cadre de projets de recherche, finalement de coordonner l'ensemble de ces acteurs pour justement mener à bien ce projet.
Et concrètement, quel type de données des patients seraient stockées dans cet entrepôt?
Alors, ce qu'il faut comprendre, comme je le mentionnais au départ, c'est qu'on a une approche d'identification des parcours à partir du soin primaire. Donc déjà, ce qu'on collecte, ce sont uniquement les données qui sont collectées dans le cadre du soin. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a une approche de minimisation des données, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de faire un copier-coller et de mettre ces données dans un espace sécurisé. Pour rappel, juste ces espaces qui sont dans un espace sécurisé, l'entrepôt de données de santé du CHU de Poitiers, il est localisé physiquement dans des serveurs du CHU de Poitiers. Donc, en fait, l'idée, l'approche de minimisation des données, c'est de se dire qu'on va collecter uniquement les données qui vont nous être utiles pour répondre à une question de recherche bien spécifique. Donc, quelles sont les données? Bah, classiquement, actuellement, on a les données de biologie. Donc, en fait, lors d'une hospitalisation, lorsque vous avez un prélèvement sanguin avec des résultats biologiques, ce sont des données qu'on va collecter. Parce que pour les études que l'on mène actuellement, on utilise ces données. On a également les informations, ce qu'on appelle les comorbidités, les pathologies, en fait, qu'ont les patients pour prendre bien en compte l'ensemble du parcours. Et on a également d'autres informations, telles que les observations médicales ou alors le statut vital, qui est un élément indispensable pour faire de l'évaluation en santé, le statut vital des patients. Et donc, ça, pour ça, on fait un chaînage probabiliste. Donc, on fait un chaînage à partir des données d'identification de l'INSEE qui permet de statuer le statut vital des patients.
Et donc, vous avez obtenu, il y a quelques semaines, l'autorisation de la CNIL, hein, la Commission nationale de l'information et des libertés, pour mettre en œuvre cet entrepôt de données de santé. C'était une étape importante, en fait, dans le projet ?
Absolument, c'est un aboutissement important parce qu'il y a un enjeu majeur. La CNIL, en fait, a édicté un référentiel bien spécifique pour les entrepôts de données de santé parce que l'idée, c'est de se dire... On va construire un espace dans lequel on va pouvoir faire de la réutilisation de données, mais par contre, il faut un niveau de sécurité très important et un niveau d'information très important auprès des usagers. Donc l'idée, c'est que pendant 18 mois, on a travaillé en collaboration avec la CNIL notamment pour construire un projet qui est bien sécurisé au niveau informatique, donc qui fait que bah, finalement, les données, ce qu'on appelle pseudonymisées, on ne va pas avoir d'identification précise des patients, donc il n'y aura aucune identité spécifique dans notre entrepôt de données de santé. Et donc voilà, c'est vraiment un aboutissement important pour notre projet et qui permet finalement de pouvoir être dans une phase de réutilisation des données de santé.
Sachant que ces données seront pseudonymisées, c'est-à-dire pas anonymisées, mais vous allez nous expliquer en quoi ça consiste.
Absolument. Donc il y a un petit différentiel sémantique entre la pseudonymisation et l'anonymisation. En fait, l'anonymisation, c'est juste le principe qu'on a aucune possibilité de retrouver l'identification du patient. En fait, la pseudonymisation, c'est la même approche, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'ensemble des données qu'on va collecter, on va supprimer toutes les informations identifiantes. Donc, il n'y aura pas le nom, il n'y aura pas le prénom, ni date de naissance, ni lieu de résidence, ni le praticien qui va prendre en charge le patient. Mais il faut savoir qu'on ne parle pas d'anonymisation tout simplement parce qu'on va croiser de nombreuses données entre eux. Donc, en fait, on n'est pas dans une approche complètement d'anonymisation parce que le fait de lier un certain nombre de données entre elles fait qu'il y a un risque qui existe de réidentification. Et dans cette approche-là, finalement, on essaie de réduire un maximum ce risque. Donc bien sûr, il n'y a aucune information d'identité dans l'ensemble de masses de données, mais par contre, il y a quand même ce risque existant. On ne peut pas l'ignorer du fait qu'on croise. On va avoir, par exemple, si on a une patiente d'un âge avancé dans un bassin de population où il y a peu de personnes avec des comorbidités un peu rares, on voit bien que ce cheminement, ce croisement de données fait en sorte qu'on est à risque de réidentification.
Et alors, qui aura accès à ces données? Quels sont les critères pour qu'un projet de recherche puisse y accéder?
Alors, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste, comme je dis, on ne duplique pas des données de notre système d'information. On copie déjà des données dans un même espace sécurisé au sein du CHU de Poitiers. Et l'idée, ce n'est pas une ouverture complète des flux. Donc, en gros, n'importe quelle personne n'a pas accès au projet. Donc, en fait, pour pouvoir avoir accès aux données, l'approche, elle est la suivante. Il faut déjà qu'il y ait une validation du projet d'un point de vue scientifique et éthique. Ça, c'est le premier axe hyper indispensable pour pouvoir justement mettre à disposition des données. Donc en fait, ce comité scientifique et éthique qui est composé de personnel du CHU, mais également de personnel extérieur et également d'usagers, permet de valider scientifiquement, mais aussi éthiquement, le fait que la recherche qui est proposée a un intérêt pour les patients. Dès l'instant que c'est validé, on a la possibilité justement de donner l'accès. Et l'accès, il est limité aux personnes qui ont monté le projet et déposé le projet, sachant qu'il y a nécessairement un partenaire qui est au sein du CHU de Poitiers. C'est-à-dire qu'en fait, si d'aventure il y a un porteur de projet qui se trouve à l'université de Lyon ou ailleurs, qui souhaite mobiliser les données du CHU de Poitiers dans le cadre de l'entrepôt de données santé, l'idée c'est qu'on puisse avoir un partenariat avec un porteur local ou un coporteur local et de co-construire ce projet. Et donc, on travaille en partenariat avec ces équipes de recherche et avec l'équipe que je coordonne au sein de l'entrepôt de données santé.
Est-ce que les patients seront informés de l'utilisation de ces données? Est-ce qu'ils pourront s'y opposer?
Alors ça, c'est indispensable. C'est en fait l'un des premiers piliers finalement de, du référentiel de la CNIL et qui fait écho finalement aux droits des usagers. Donc en effet, sur l'ensemble des données qui sont collectées dans le cadre du soin, on peut en effet avoir la possibilité de s'opposer. Dans un premier temps, nous, on a l'obligation d'informer l'ensemble des patients pour leur expliquer tout simplement qu'on va mettre en place cet entrepôt de données santé. On a aussi diffusé largement le fait qu'on a l'autorisation de la CNIL. Et pour chaque étude, en fait, on va diffuser le nom de l'étude, l'objectif de l'étude et les profils de patients qui sont intégrés dans l'étude. L'idée, c'est vraiment d'être complètement transparent sur la réutilisation de données. Donc, en fait, on a une obligation d'information. On n'a pas, comme dans les essais cliniques pour évaluer un médicament, une obligation, finalement, d'autorisation écrite par le patient. Le principe, c'est le consentement prévaut, sauf si le patient souhaite en faire opposition. Donc en fait, pour faire l'opposition, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet du CHU de Poitiers, d'avoir accès, il y a une page sur l'entrepôt de données de santé, et de faire valoir son droit d'opposition. Donc c'est un droit à tout un chacun de pouvoir réaliser ce droit.
Et pour qu'on comprenne bien, quels sont les premiers projets de recherche qui vont utiliser cet entrepôt de données de santé ?
Alors, on a eu plusieurs. Dans l'approche, en fait, qu'on a menée, c'est qu'on a, en peu de temps, on a constitué l'entrepôt de données de santé, on a réussi à obtenir l'autorisation de la CNIL, et parallèlement, en fait, on a déposé un certain nombre de projets. Projets pour certains qui ont été déjà financés. Donc, c'est des appels à projets qu'on a eu interrégionaux, nationaux et même européens. Donc, on a été dans une démarche très proactive. L'idée, c'est de ne pas avoir juste un cimetière de données et de pouvoir les réexploiter très efficacement dès le départ dans la constitution. Donc on a, je vais vous parler rapidement d'un projet qu'on a financé. Classiquement, un projet a été proposé par le professeur Thomas Kerforn et qui s'intéressait aux dons des organes, notamment aux dons du rein. En fait, il a fait le constat que finalement, lorsqu'on donne un rein, en cas de mort encéphalique, lorsqu'on donne nos reins, on va en avoir un qui va partir ce qu'on appelle en régulation, donc qui va être transmis à la régulation nationale et qui va être déployé dans un centre pour réinsérer finalement l'organe chez un patient receveur. Et on a également l'un des reins qui va être greffé au niveau local, au niveau du CHU de Poitiers. Lui, son constat, c'était de dire que finalement, on n'a pas d'éléments bien spécifique pour savoir en fait le devenir de l'organe en lui-même. Ça veut dire qu'en fait, lorsque vous allez greffer l'organe chez un patient ou un autre, on n'a pas des critères absolument fiables pour savoir finalement l'espérance de vie de ce greffon. Et ce qui est intéressant dans son approche, c'est de se dire bah, finalement, ces patients, on dit qu'ils sont scopés, c'est-à-dire qu'on va les suivre durant la fin de leur vie et jusqu'au prélèvement des organes. Et dans ce cadre-là, en fait, on a un monitorage extrêmement précis. Donc, ils sont en soins critiques et donc on va avoir leur fréquence cardiaque, on va avoir de la biologie, on va avoir tout un tas d'informations bien précises. Et son idée, c'est de se dire, à partir de ces éléments-là, est-ce que je vais être en capacité de prédire l'avenir du greffon indépendamment du profil ? Et les retombées, quelles sont-elles ? En fait, c'est s'imaginer que si on a la capacité de prédire l'avenir de ce greffon, on va peut-être pouvoir orienter sur des patients pour lesquels l'espérance de vie peut-être serait plus intéressante. Donc, ça, c'est des approches comme ça qui peuvent être proposées, donc de prédiction. Et après, je parlerai très rapidement d'un autre projet, Orchidée, donc un projet dans le cadre d'un appel à projet européen. Et dans ce cadre-là, en fait, on a fait le constat avec la crise Covid qu'on n'est pas en capacité de fournir des indicateurs au fil de l'eau. Et avec ce projet-là, l'idée, c'était de se dire on va pouvoir générer avec les entrepôts de données de santé des informations spécifiques au fil de l'eau sur les insuffisances respiratoires aiguës.
Et puis on se pose forcément la question, Alexandre Quillet, de l'IA avec un nombre de données aussi énorme qu'un entrepôt de données de santé. J'imagine que ça pourra permettre aussi d'utiliser l'IA pour faire ses travaux.
Absolument. Et en fait, cette approche d'IA, c'est un terme parfois qui est galvaudé, mais l'idée, c'est que finalement, à partir des masses de données très importantes, c'est de pouvoir utiliser des modèles d'intelligence artificielle pour pouvoir construire des modèles éventuellement prédictifs. Donc, classiquement, il y a une approche qu'on essaye de mettre en place actuellement, c'est à partir des ECG, donc c'est les électrocardiogrammes, c'est le suivi du cœur, en fait, les données brutes, de savoir, en fait, si à partir de ces données brutes, à partir de modèles de langage profond, est-ce qu'on va être en capacité de prédire l'hospitalisation ou la mortalité à 3 mois du patient. Donc en fait, être dans une démarche un peu d'anticipation et se dire attention, ce patient il a ce risque dans 3 mois, donc je vais faire un axe de prévention particulier ou je vais reprévoir une consultation. Donc, en effet, il y a la masse de données qui est très importante. Et là encore, il faut qu'il y ait une approche éthique et scientifique sur tous les projets de données.
Merci beaucoup Alexandre Quier, vous êtes coordinateur donc de ce projet d'entrepôt de données de santé du CHU qui vient de voir le jour à Poitiers. Merci bien.
Merci, bonne journée.
On continue en musique avec l'un des groupes peut-être les plus inclassables de Bordeaux, c'est Chez la Baume et ce titre, Laverie.
Mon cœur bat comme le tambour d'une machine à laver. Sous les néons, la chaleur du séchoir fait transpirer. Dès que je te vois entrer, j'avale ma salive. Odeur lavande concentrée, je verse ma lessive. Tous les deux assis sur des chaises de plastique. Chacun fixe ses habits et leur danse hypnotique. Nos coudes se frôlent, les mêmes mains sont moites. Que vite tu t'hésites, ta doudoune de rap.
Pulsar 95.9.
Ah ouais.
Dans le cadre de la rénovation globale du quartier des Couronneries, Thomas s'est rendu au parc de Coubertin qui vient d'être inauguré.
C'est le retour du beau temps. Les balançoires et les terrains de pétanque du nouveau parc de Coubertin sont déjà bien utilisés. Mais à l'autre bout du parc, la fête commence. Tous les acteurs du renouveau du parc de Coubertin sont là pour l'inauguration. Le projet est financé grâce au programme national de renouvellement urbain, comme nous l'explique Florence Jardin, présidente de Grand Poitiers.
Donc sur le contrat ANRU, donc c'est des contrats avec l'État en fait, qui sont pilotés à la fois État et communauté urbaine pour renouveler des quartiers urbains. typiquement, donc, le quartier des Couronneries fait l'objet d'un contrat qui se courbe sur plusieurs années et sur lesquels il y a plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont investis selon les projets qui ont été déposés au départ, quelquefois avec des évolutions. Mais là, aujourd'hui, on est bien avancé. On est dans le timing par rapport à la rénovation de logements, par rapport aux espaces publics et par rapport aux équipements publics.
Mais le projet est surtout local, porté par ses habitants. Claude Brunet, président de l'association sportive amicale des Couronneries, a participé aux réunions de réflexion.
On avait des élus de la ville de Poitiers, et puis les gens qui s'occupent un peu de ces aménagements sur les Couronneries. Bien, on s'est assis autour d'une table avec des dessins et on a fait qu'est-ce qu'on pouvait faire sur cette grande plaine qui est quand même assez longue, presque 1 km, 750 mètres, je crois. Voilà, on a les arbres, des arbres fruitiers, quel genre de jeu, je crois qu'il y a un parcours de santé, voilà. Et c'est ça, ça a été décidé par les habitants.
La réalisation des travaux a été supervisée par Mathieu Lemoine de l'entreprise A2I, dans un temps court malgré les difficultés.
Là, on a commencé en fin d'année. On a eu pas mal de soucis avec les conditions météo, bien qu'aujourd'hui il fasse très beau. Mais voilà, on a eu pas mal de problèmes d'intempéries. Et donc, ça a duré 5 mois.
Pour autant, les problèmes de météo ne sont pas toujours liés à la pluie, bien au contraire.
Mais voilà, on aurait eu un peu plus de pluie, les gazons auraient déjà levé et on aurait peut-être eu un peu moins de pertes d'arbres, hein, parce qu'on a eu quelques pertes.
Comme nous le confiaient les habitants, le parc de Coubertin plaît déjà aux petits et aux grands. La suite pour le quartier des Couronneries sera la rénovation des écoles.
Merci Thomas. Et tout de suite, avec le Toit du Monde et Dominique Royou, on rencontre Alexandra Bénard d'Initiative Développement.
Bonjour Alexandra Bénard, tu es chargée de communication à Initiative Développement, une association présente à Poitiers, une ONG. Est-ce que tu peux déjà nous dire en quelques mots le travail, en quoi consiste le travail d'Initiative Développement ? Et puis après, je crois que l'AG va avoir un aspect un peu exceptionnel cette année avec l'organisation d'une table ronde dont tu nous diras quelques mots s'il te plaît.
Tout à fait. Donc, bonjour Dominique. Donc, ID, c'est une association qui a fêté ses 30 ans l'année dernière à Poitiers, créée à Poitiers, toujours à Poitiers, et qui a la particularité d'être une ONG qui intervient dans 9 pays, en Afrique de l'Ouest, en Haïti et aux Comores et à Madagascar. On travaille vraiment selon une méthode bien particulière. On travaille sur l'accompagnement, le renforcement de compétences, le renforcement aussi de la citoyenneté des personnes au Tchad, au Bénin, au Sénégal. On travaille également sur des projets de lutte contre le dérèglement climatique. Et vraiment, le propre de notre action, c'est d'accompagner la prise de légitimité des personnes sur place pour qu'elles soient en capacité pleine et totale de mener des projets, mais aussi de s'intégrer, de s'insérer dans les décisions politiques qui les concernent sur leur territoire.
Alors là, donc, va avoir lieu l'Assemblée générale ordinaire d'Initiative Développement le 2 juillet à l'espace Mendès France. Mais je crois que tu es à l'initiative de l'organisation d'une table ronde sur les jeunesses, sur le regard croisé des jeunesses au nord et au sud. Est-ce que tu peux nous expliciter un petit peu le contenu de cette table ronde ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau d'idées, on travaille aussi avec les jeunesses en France sur des projets d'accompagnement en fait, d'initiatives jeunes sur des projets à l'international. Et on avait envie un petit peu de mettre en valeur justement les questions de jeunesse. Elles sont très présentes actuellement ici en France, en Europe, partout dans le monde. Et partout, ce qu'on entend quand même, c'est que ces jeunesses, elles ne trouvent pas forcément leur place. Alors, elles essayent d'inventer, de se réinventer sur des processus de participation, de revendication également. Et c'est les mêmes problèmes et en même temps, les mêmes solutions aussi et mobilisations qu'on va trouver dans les pays africains, par exemple, ou haïtiens. Donc, on accompagne, nous, spécifiquement sur des projets, ces jeunesses-là, sur aussi bien de la construction en fait, de développement territorial au Tchad, par exemple, mais aussi sur un travail vraiment d'approche de la citoyenneté par les médias, notamment les réseaux sociaux, notamment la radio, par exemple, aussi. Et on travaille plus particulièrement en Haïti, hein, qui est quand même un pays... on peut le dire en faillite, avec un État failli, et qui pourtant, au niveau de ses collectivités locales, arrive encore à mener des projets, notamment avec de jeunesses très investi et qui vraiment mouille la chemise, comme on dit, pour malgré tout sortir de cette impasse et faire repartir ce pays sur de bonnes bases, sur des bonnes scènes et sur des basses scènes qui permettent à chacun et chacune de pouvoir prendre leur place et contribuer au redéveloppement de ce pays.
Et alors là, ça aura lieu quand donc
pour Ça a lieu le 2 juillet, rendez-vous à 17h30 à l'espace Mendès France à Poitiers. On clôturera tout ça par une exposition qui a été faite justement d'après notre projet en Haïti. Et on clôturera avec un DJ set de Couleur Groove, bien connu sur les ondes de Pulsar, pour continuer la soirée de manière un peu plus amicale.
Merci Alexandra, à
Merci.
Bientôt.
Merci.
Et merci à Dominique Royaux pour cet échange. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. On commence par un atelier de démonstration mécanique. Le 23 juin, fête l'anniversaire d'un brevet de 1868 qui concerne la première machine à écrire produite de manière industrielle, jalon indispensable dans l'histoire de cette invention révolutionnaire. En l'honneur de cette journée spécifique, vous pourrez découvrir le fonctionnement des machines à écrire. C'est donc à Préface à Montmorillon à partir de 6 ans et c'est gratuit. On reste à Montmorillon où les élèves de l'EMIG vous attendent à l'église Saint-Martial à l'occasion d'un concert-événement autour de l'orgue de Saint-Martial. C'est à 19h30, c'est gratuit et ouvert à toutes et tous. Le République Comedy Club, c'est la soirée stand-up de l'espace République Corner à Poitiers. C'est à partir de 20h. L'entrée est à partir de 15€. Et donc 20h au RC. Et puis on continue avec le festival Anaco qui va débuter en cette fin de semaine. C'est le festival du film ethnographique qui a pour thème cette année les peuples racines. Il se tiendra à Montreuil-Bellay, au château-musée Anaco de la Reine de Sicile à Saumur, au cinéma Le Cornet à Loudun, mais aussi dans les villes voisines des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire, de la Vienne et de l'Indre-et-Loire. Et puis en mise en bouche dès aujourd'hui à 20h30 au cinéma Les 400 coups, il vous propose le film Le Petit Peuple. Donc Petit Peuple, ça parle des Baka, des Bakola Bagyeli, des Haka, qui font partie de ce grand peuple des forêts africaines communément qualifié de pygmées. Le film en partie tourné par les Haka du village Kambolé au Congo nous raconte leur quotidien, leur spiritualité mais aussi leurs défis. Ça dure 52 minutes et ce sera en présence de l'équipe du festival Anaco. Et puis on termine avec une soirée salsa, bachata, kizomba, comme tous les lundis. C'est à 21h15 au République Corner avec DJ Alex de Poitiers Salsa. Et puis un cours de bachata avant avec Mika à partir de 19h, niveau intermédiaire et niveau débutant. Sur Pulsar à 18h, c'est votre émission féministe en français et en anglais, And the Tap Drips. À 19h, on parle bande dessinée avec X-Bull. À 20h, c'est Punks. Et à 21h, ce sont des lives dans Scrognogneux. C'était Yann à la réalisation technique. Merci. On se quitte avec le compositeur et pianiste français Chassol. Il fusionne musique, images et voix enregistrées dans un style unique qu'il appelle Ultrascore. Voici son titre « I'm not a real person ». Bonne écoute, à demain.
I don't listen to what art critics say. I'm not a real person. I want to make paintings that look as if they were made by a child. The black person is the protagonist in most of my paintings. The more I paint, the more I like everything. I don't think about art when I'm working. I don't listen to what art critics say. I'm not a real person. I want to make paintings that look as if they were made by a child. The black person is the protagonist in most of my paintings. The more I paint, the more I like everything. I don't think about art when I'm working. I don't listen to what art critics say. I'm not a real person.